Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Profession philosophe. Mais comment devient-on philosophe? Est-ce une vocation? Est-ce un métier? Comment fabrique-t-on un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Souleymane Bachir Diagne. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Tu perds ton temps et ta peine.
Comment se fait-il qu'il existe des vérités qui aient l'air d'être indépendantes du temps et qui cependant soient produites dans le temps?
Dans la civilisation négro-africaine, l'homme s'abandonne au rythme de la nature.
Je vous ai présenté comme philosophe, Souleymane Bachir Diagne. Comment vous présentez-vous?
Écoutez, j'ai fait ma paix avec ce mot-là. Je me présenterai moi-même aussi comme philosophe.
Il y avait une guerre à vous?
Non, j'osais pas, disons. Maintenant, au bout d'un certain temps, quand on me présente comme philosophe, je dis, mais ma foi, ça doit être vrai, quelque part, que je suis devenu celui que je voulais être.
Est-ce un métier?
C'est une passion, c'est également mon métier, effectivement. J'ai le rare bonheur, comme beaucoup de mes collègues, d'avoir comme métier ma passion. C'est vrai que la philosophie pour moi est d'abord une passion. Il y a des pages de philosophie qui m'ont tenu éveillé le soir en me disant « mais il est absolument fabuleux ce texte ». Et donc, ça, je crois que ça peut définir une passion. Et comme mon métier est de faire en sorte que des plus jeunes que moi aient la même réaction devant un certain nombre de textes, qu'ils puissent aussi être tenus éveillés par ces textes-là et pouvoir se dire à certains moments « mais il est fabuleux ce texte ». J'imagine que ça définit aussi ce qui est ma passion comme un métier, parce que mon métier, c'est d'essayer de transmettre cette passion.
Alors, on va passer 50 minutes ensemble pour essayer de comprendre comment cette rencontre avec la philosophie s'est faite, quelles sont vos influences philosophiques ou extra-philosophiques, comment vous fabriquez vos concepts, quel rôle politique vous jouez en ville, dans la cité. Vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie française et des questions philosophiques en Afrique dans les départements de philosophie et de français à l'Université de Columbia, directeur de l'Institut d'études africaines. Et on va commencer avec une chanson, c'est votre suggestion, Beyoncé.
She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand there, but for the grace of God, oh, I found heaven on earth. You are my last, my first, and then I hear this voice inside. Ave Maria.
Mais vous la connaissez par cœur, Souleymane Bachir Diagne, cette chanson?
Mais à force, oui, je l'ai sur mon téléphone et j'aime bien l'écouter, je dois dire, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette chanson? Donc l'Ave Maria, version Beyoncé.
L'Ave Maria, alors j'aime l'Ave Maria, j'aime à peu près toutes les versions de l'Ave Maria, parce que j'ai une relation assez particulière, je dirais, à l'Ave Maria et la prière que c'est. Parce que l'Ave Maria, évidemment, c'est le « Je vous salue Marie ». Des paroles que j'ai appris à réciter, bien que petit enfant musulman, à l'école maternelle où m'avaient mis mes parents quand j'étais petit. Et j'étais chez les sœurs et les sœurs nous faisaient réciter l'Ave Maria, donc, mais en français, je vous salue Marie, pleine de grâce, tous les jours. Ça amusait beaucoup ma mère que je vienne réciter ces paroles-là. Et donc, c'est une conversation que nous avons eue pendant très longtemps. Il me disait, quand tu étais petit, que tu venais me réciter « Je vous salue Marie », etc. De Schubert à Beyoncé, toutes les versions avec ces voix magnifiques me plaisent énormément. Comme j'ai découvert Beyoncé plus à travers mes enfants, Ouais. Je suis tombé sur l'Ave Maria de Beyoncé. Pendant très longtemps, je ne savais pas qu'elle avait fait cela. Je connaissais les airs plus nerveux sur lesquels mes enfants dansaient et chantaient dans la voiture. Et puis, j'ai découvert qu'elle avait également sa propre version de l'Ave Maria. Alors, celle-là, je l'ai sur mon téléphone et je l'écoute en alternance avec l'Ave Maria de Schubert. You are my heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside. Ave Maria.
Vous dites que vous êtes né dans une famille musulmane et que vous avez reçu une éducation catholique. Ça veut dire que dans votre enfance, la religion prenait plus de place que la philosophie?
Oui. Je dis, alors, je suis né d'une famille religieuse musulmane et même très religieuse parce que mon père, comme ma mère d'ailleurs, appartenait à des familles qui étaient traditionnellement des familles d'imams. Mon grand-père était un imam. Mon père a commencé par avoir une éducation qui aurait dû faire de lui un imam, un guide religieux, ce qu'il est devenu aussi d'ailleurs, en plus de ses études qui ont fait de lui un fonctionnaire des postes et télécommunications du Sénégal. Il a donc travaillé toute sa vie comme fonctionnaire des PTT, comme on disait à l'époque, poste, téléphone, télégraphe, je crois. Mais sa vraie vie, encore une fois, c'était d'être un théologien que j'ai toujours vu être entouré de beaucoup d'amis qui venaient le voir, qui passaient des week-ends avec lui, et ils étaient là à commenter tel livre de droit, de jurisprudence islamique, ou alors le Coran, ou alors un livre de théologie, un livre de mystique, etc. Donc, je dirais d'une certaine façon que la philosophie, si on donne une signification très large à l'activité spéculative, l'interrogation des concepts, etc., a toujours été un univers dans lequel j'ai baigné en étant là quand mon père discutait théologie ou mystique ou philosophie, parce que mon père aimait beaucoup lire de la philosophie, alors ça ne s'arrêtait pas.
Qu'est-ce qu'il lisait ?
Tout. Dans sa bibliothèque, alors mon père était un boulimique des livres, vous trouviez Sartre, vous trouviez Marx, vous trouviez également évidemment Razali, Avicenne, vous trouviez de la théologie. Il adorait les livres, il adorait l'activité, la réflexion philosophique, et donc c'était un grand éclectique de ce point de vue-là.
Si on lit la liste des livres que vous avez publiés ces dernières années, Souleymane Bachirdiane, on peut aussi parler d'éclectisme, même s'il y a des points communs. Donc il y a un ouvrage consacré à Léopold Sédar Senghor, il y a un ouvrage sur l'universalisme et les entretiens que vous avez fait aussi avec Jean-Louis Hamsel sur cette même question, des réflexions sur la philosophie en Afrique, comment philosopher en islam. Voilà. Est-ce qu'il y a, selon vous, un terme, un concept, une réalité autour de laquelle s'articule votre travail?
Alors, ce terme, oui. Oui. J'affirme clairement
tout
et fermement
que
oui, et ce terme peut effectivement tenir en un seul mot, et c'est le mot de traduction. Au fond, mais ce que j'ajouterai avant d'expliquer un petit peu plus avant, c'est que ce lien m'est apparu relativement tard. C'est seulement ces dernières années que j'ai bien vu ce qui reliait des choses auxquelles j'avais travaillé ici ou là, en ayant moi-même le sentiment de me démultiplier, finalement. Et c'est le terme de traduction. Au fond, je crois que dès les premiers travaux dans lesquels je me suis engagé, c'est-à-dire ma thèse sur l'algèbre de la logique, la grande question dont j'ai traité par la suite, c'était la question de la traduction. Quand j'ai écrit sur l'algèbre de Boole, l'algèbre de la logique mathématique, il s'agissait de comprendre ce que signifiait cet aspect de notre civilisation de l'ordinateur, qui est la traduction de nos langues naturelles dans les symboles que sont 0 et 1. C'est le premier travail que j'ai effectué. L'autre direction dans laquelle j'ai travaillé, ce sont les questions de philosophie dans le monde islamique, l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Et là, encore une fois, cette histoire est d'abord une question de traduction. Il y a là deux liens, d'ailleurs, qui se sont créés avec mes travaux antérieurs. D'abord, en suivant l'histoire de la logique, j'ai suivi l'histoire de la logique dans le monde islamique. Et de manière plus large, j'ai regardé ce que signifiait pour le monde islamique avoir, à un moment donné, reçu et traduit la philosophie grecque en arabe, transformant ainsi la langue arabe en une langue de la philosophie, en une langue philosophique qui est devenue la langue non seulement des auteurs musulmans, mais également des auteurs juifs qui vivaient dans le monde islamique, comme Maïmonide, Sadia Gaon, etc. Donc là encore une fois, la réflexion c'était ce que signifiait traduire de la philosophie grecque en langue arabe et traduire des questions islamique ou des récits islamiques liés à l'islam dans le langage du néoplatonisme.
Combien de langues parlez-vous ?
Alors, que je parle, puisqu'elles sont parlées, le français, anglais, Wolof, et que je pratique, donc, sous leur forme écrite et classique, le latin, le grec et l'arabe. Voilà, j'ai le même rapport à l'arabe que j'ai au latin et au grec, c'est-à-dire que pour moi, il s'agit d'une langue liturgique, d'une langue philosophique. Donc, je peux discuter avec vous les attributs de Dieu et sa souveraineté exaltée.
Dans des textes de philosophie arabe.
Mais allez voir un match de football, voilà, entre la France et la Norvège, en arabe, non.
Alors, peut-être vous souvenez-vous de votre première rencontre réelle avec la philosophie, ou ce qui vous a donné envie d'en faire. On va écouter un son et vous nous direz si c'est un lien avec ça.
Tu perds ton temps et ta peine. Un de ces jours, tu te retrouveras au purgatoire, comme tout le monde.
Donc, tout le monde fait le mal.
Tout le monde !
Et personne n'a jamais fait le bien.
Personne !
Parfait. Moi, je te parie de le faire.
De faire quoi ?
Le bien ? Tiens-tu le pari ?
Tiens-tu le pari de faire le bien sur France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe aujourd'hui en compagnie de Souleymane Bachir Diagne. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait que nous venons de diffuser ?
Absolument. Quand il a dit « je parie faire le bien », je me suis dit « non seulement c'est le théâtre de Sartre, mais c'est même le diable et le bon Dieu ».
Bravo.
Mais vous savez, alors France Culture est bien tombée en choisissant précisément le diable et le bon Dieu. Je me demande, je ne suis pas sûr, mais je me demande si ce n'est pas le premier texte de Sartre que j'ai lu, parce que j'ai commencé par lire du théâtre de Sartre, Le diable et le bon Dieu. Je me souviens avoir été absolument bouleversé par cette pièce.
Elle est pourtant très peu étudiée et très peu lue, cette pièce.
Elle était dans la bibliothèque de mon père, je vous dis. L'homme éclectique par excellence, c'est donc dans sa bibliothèque que j'ai commencé par lire Le diable et le bon Dieu. Je devais être en seconde ou en première. C'était cette première rencontre avec Sartre a créé mon goût, je crois, pour la philosophie. Je ne comprenais pas tout, l'idée de, comme ça, de se mettre dans cette position éminente de Goetz, le personnage du diable et du bon Dieu, et dire « je vais inventer le bien, je vais inventer le mal ». Je ne comprenais pas. Bon, bah, par la suite, j'ai pu donner sens philosophique à tout cela.
Donc c'est les questions du bien et du mal ?
Oui, les questions du bien et du mal, là, dans cette pièce. Et je voulais aller plus loin, je découvrais cet auteur. En plus, c'était un auteur qui était de la gauche la plus à gauche possible, à laquelle je m'identifiais à l'époque, bon, enfant, presque encore adolescent, donc sans avoir véritablement les armes de ce que je croyais être ma politique, mais je faisais comme mes aînés au lycée, c'est-à-dire que je me définissais comme un révolutionnaire de gauche, et j'avais le sentiment d'avoir une complicité à la fois philosophique et politique avec Sartre.
Et donc au Sénégal ou en France ?
C'était au Sénégal. J'étais au Sénégal, c'est là que j'ai fait toutes mes études jusqu'au bachot. Je ne suis venu en France qu'après le baccalauréat. Ça allait avoir donc cette fascination que j'avais pour la philosophie sartrienne allait avoir une conséquence que je ne pouvais pas prévoir au moment où je lisais mes premiers textes sartriens, c'était de décider de ce qui serait, je l'ai dit tout à l'heure, et ma passion et mon métier, parce que je ne me voyais pas du tout faire des études de philosophie. J'étais à l'époque, je suivais la section qu'on appelait la section C à l'époque, aujourd'hui c'est la section S, c'est-à-dire
scientifique.
Et donc, je me voyais devenir plus tard, quand je serai grand. C'était ça le plan. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et alors, ce qui s'est passé, en terminale, j'ai approfondi tout cela, puisque nous avons le bonheur dans notre culture française et francophone d'avoir la classe dite de philosophie, où là, on étudie systématiquement de la philosophie. Il s'est trouvé, et là c'est très important, je veux dire, tous ceux qui sont devenus des professeurs de philosophie vous le diront, le prof qu'on a en terminale est absolument crucial. J'ai eu un excellent professeur qui s'appelait Amsat Assar, au lycée d'excellence de Dakar, qui s'appelait à l'époque le lycée Van Vollenhoven, qui aujourd'hui s'appelle le lycée Lamine Gueye. Et Amsat Assar a été le professeur de philosophie absolument brillant, magnifique, qui me donnait l'impression de m'ouvrir des portes qui débouchaient sur des choses absolument lumineuses. Il faut dire, alors j'explique que j'étais en C, mais j'étais dans une section C très spéciale où je faisais également du latin et du grec. Et j'avais eu en particulier en première, quand j'étais en première, quelques prix au concours général dans ces domaines-là. Donc j'étais vraiment à la fois à 100% littéraire et à 100% également un étudiant des sciences, puisque j'étais en C et que j'aimais ça, je voulais faire des mathématiques. Résultat des courses...
Oui, on est toujours pas là en philosophie, là.
Ah voilà. Alors résultat des courses... Quand j'envoie à un oncle qui se trouvait en France mes dossiers au moment de faire les inscriptions, il se dit il faut absolument que je l'inscrive en Cagne. Il m'inscrit en Cagne au lycée Louis-le-Grand à Paris. Voilà, et je suis accepté donc pour venir faire une hippocagne à Paris. Entre-temps, au Sénégal même, j'avais fait des entretiens avec ceux qui recrutaient pour l'INSA de Lyon, l'Institut National de Sciences Appliquées de Lyon. Et j'avais eu également la chance d'avoir fait une bonne interview avec eux. Et j'avais donc été accepté. Je devais, quand je suis venu en France, quand j'ai pris l'avion pour arriver à Paris, j'avais dans ma poche la lettre d'admission au lycée Louis-le-Grand et la lettre d'admission à l'INSA de Lyon.
Qu'est-ce qui vous a fait décider?
D'abord, Louis-le-Grand commençait. Et l'INSA de Lyon était un peu plus tard. Ensuite, c'était Paris, c'était la première destination. J'avais un cousin qui pouvait m'accueillir ici à Paris, m'introduire un petit peu à la vie française. Et je me disais, j'ai toujours le temps d'aller à Lyon après. Et je suis allé à Louis-le-Grand, à l'internat, et j'ai commencé les cours à Louis-le-Grand. Mais pendant toutes les premières semaines, je me demandais si j'avais bien fait, si je n'allais pas repartir, s'il n'était pas trop tard pour écrire à l'INSA de Lyon et leur dire je viens finalement. Bref, ça a été, aujourd'hui j'en parle avec en souriant, mais à l'époque c'était vraiment une tempête sous un crâne. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le système américain pour ça. Il vous donne le temps de vous décider sur un major. Il y a quelque chose.
C'est-à-dire la discipline principale, en fait.
Voilà, la discipline principale.
On ne se spécialise pas tout de suite après le bac.
Exactement. Et j'aurais bien aimé avoir quelque chose comme ça à l'époque. Finalement, alors, mon père, voyant mon indécision, a tout simplement pris sa plus belle plume et a écrit au proviseur du lycée Louis-le-Grand, M. De Heuvels. Et je ne serai jamais assez reconnaissant à cet homme, qui était pourtant, qui avait tous les étudiants de son lycée à gérer, d'avoir effectivement réagi comme le demandait mon père, c'est-à-dire comme un père, en me faisant venir dans son bureau, en parlant avec moi, et il m'avait dit, vous savez, j'ai le sentiment que vous avez la possibilité d'être le premier Sénégalais à entrer à la rue d'Ulm, donc je vous conseillerais. Je n'avais
donc
pas
c'était
besoin.
C'était de manière intéressée pour lui, alors, non?
Oui, mais tout à fait honnête, j'ai eu le sentiment véritablement de parler avec quelqu'un qui faisait attention à moi et qui se demandait effectivement comment il pourrait m'aider dans l'indécision qui était la mienne et qu'il avait parfaitement bien comprise. Au fond, c'était ça ma décision, parce que si j'étais allé à Louis-le-Grand et j'avais commencé à prendre les cours, c'est que d'une certaine manière, j'avais décidé, vous savez, parlant de Sartre, c'est lui qui dit, si on délibère, les jeux sont faits.
Exactement.
Donc j'avais probablement décidé, j'avais probablement simplement besoin qu'une voix amie comme celle-là, une voix en quelque sorte presque commanditée par mon propre père, me dise ce que M. De Heuvels m'a dit à ce moment-là. Et j'ai pu faire, c'est pour ça que je vous disais, j'ai pu faire la paix avec le choix qui avait été le mien. de rester en Hippocagne et d'essayer, comme il l'avait prophétisé un peu imprudemment, de devenir le premier Sénégalais à entrer à la rue d'Ulm.
Parmi les voix paternelles, amicales et professorales qui ont compté pour vous, il y en a encore deux. On va les écouter rapidement. Voici une.
De toute façon, on fait de la philosophie. Il vaut mieux qu'elle soit consciente et qu'elle soit bonne plutôt que d'être silencieuse et d'être mauvaise.
Si on écoute la voix de Louis Althusser, Souleymane Bachir Diagne, ça veut dire que vous avez intégré l'école normale supérieure.
Voilà.
Où il enseignait.
Où il enseignait. Il y enseignait, il était également ce qu'on appelait mon caïman. Les caïmans, c'était le terme générique pour parler de nos professeurs à l'école normale supérieure. Et on était effectivement affectés aussi à un caïman particulier. Et moi, j'étais affecté à Althusser. Je suis de la dernière génération de normaliens à avoir eu ensemble, comme professeur à l'école normale, Louis Althusser, Jacques Derrida et Bernard Poutras.
Vous pensez que ce sont les maîtres qui font les philosophes ensuite ? Enfin, un professeur est-il un maître ? Dans quelle mesure détermine-t-il la pensée de son élève ?
Je le crois. Si je prends l'exemple de quelqu'un que beaucoup de gens de ma génération qui sont passés par Louis le Grand reconnaîtront, André Peissel, nous sommes un certain nombre de gens à avoir été profondément marqués par Peissel. Peissel, c'est notre Alain.
Le philosophe Alain.
Le philosophe Alain. Alors, il a formé des générations de normaliens, de Cambouchner, plein de gens qui sont passés par les mains de Peissel reconnaîtront la valeur d'un maître. Parce qu'au fond, un maître, qu'il soit maître à l'école élémentaire ou maître à ce niveau-là pour préparer l'agrégation, qu'est-ce qu'il nous apprend ? D'abord à lire. Lire des textes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Peissel nous a formés à cela. Évidemment, Althusser ou Derrida, grand maître de la déconstruction, également. Et donc, c'est vrai, je crois qu'en y réfléchissant, l'importance des maîtres est absolument cruciale.
Alors, si on définit l'importance des maîtres, on doit d'abord définir ce qu'est sans doute l'essence de la philosophie. Et c'est un philosophe qui va vous poser cette question-là.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir ?
Vous arrivez à répondre à cette question, Souleymane Bachir Diagne ?
Écoutez, depuis que Michel Serres est mort, ces jours-ci, j'ai appris à dire qu'elle ne sert à rien, mais qu'elle sert à tout.
Il était à ce micro en octobre dernier, d'ailleurs, à votre place, oui, et il avait bien dit que la philosophie... Si on se posait la question de l'utilité de la philosophie, ça veut dire que pour nous, peut-être qu'elle ne servait à rien.
Mais bien sûr, elle ne doit servir à rien parce que ce n'est pas dans sa vocation de servir. En revanche, elle sert à tout au sens où les questions philosophiques, on les rencontre d'abord, c'est ce que disait Deleuze. On ne décide pas d'être « Ah, je vais choisir de travailler sur Leibniz et me montrer malin sur Leibniz ». On rencontre des problèmes. C'est ce qui explique d'ailleurs, pour revenir à un point antérieur de notre conversation, que je sois passé à un moment donné de mes questions d'histoire de la logique à l'histoire de la philosophie islamique, parce qu'il y avait là de vrais enjeux, des problèmes que j'avais rencontrés dans mon enseignement qui m'ont fait sentir la nécessité d'aller dans cette direction. Voilà. Et donc le fait que ce soit des problèmes qui soient à l'origine du déclenchement d'une activité philosophique, d'un intérêt philosophique, montre bien l'utilité de la philosophie, si tant est qu'elle ait besoin de prouver sa propre utilité.
Mais ça veut dire que c'est un goût, une vocation, une nécessité de faire de la philosophie ?
Une nécessité, je dirais, parce que reprenons un peu le fil de ce que je vous disais. Quand je suis à l'école normale, après l'agrégation à laquelle j'avais été préparé par Althusser, Derrida et Poutras, je décide de faire une thèse qui n'a plus rien à voir ni avec Sartre ni avec Althusser, mais une thèse en logique mathématique. Donc c'était une manière de retrouver un petit peu le goût de ce que je n'avais pas, de la voie que je n'avais pas suivie, qui était celle des mathématiques. Et donc, quand je rentre chez moi au Sénégal, après avoir fini l'école, je décide que je veux créer un enseignement de philosophie des sciences, de sociologie des sciences, parce qu'il me semblait nécessaire de développer dans le cursus, y compris dans les humanités et les sciences sociales, cette réflexion sur l'importance de la science et de la technique dans des sociétés, en particulier des sociétés sous-développées, on va dire, comme les nôtres. Donc, je je pensais faire obéir mon travail philosophique à une nécessité qui me semblait être une nécessité à la fois sociale et politique dans laquelle le cours que je voulais créer s'inscrivait. De la même manière, quand après la révolution islamique, parce que c'est après cette période-là, au début des années 80, vers le milieu des années 80, que je suis rentré, que j'ai commencé à enseigner, quand les suites de la révolution islamique se traduisaient en une présence un peu tonitruante de l'islam, y compris sur nos campus, sur le campus de Dakar, où on a commencé à voir les premières femmes voilées et des manifestations de religiosité.
En quelle année, c'est à peu près ?
Autour des années 85-86. C'est le moment où, dans mon département de philosophie, on s'est dit, il est important, il est nécessaire, pour reprendre votre terme, que nous comprenions notre mission de philosophe et de professeur de philosophie comme étant aussi la mission de rappeler à une société comme la nôtre, à 95% musulmane, qu'il y a une tradition de questionnement, une tradition de bon usage du scepticisme et de l'esprit critique dans l'islam, et que donc cette tradition de philosophie dans le monde islamique, il fallait la faire connaître. Voilà encore ce que signifie rencontrer un problème et avoir le sentiment qu'une certaine activité philosophique est nécessaire au sens où elle est appelée.
C'est ça, et mais appelé par des conditions culturelles, politiques, économiques ou religieuses.
Absolument, absolument. Et par ailleurs, troisième domaine dans lequel je travaille, les questions de philosophie liées à l'Afrique. Elles sont omniprésentes, elles m'entourent. Comment rendre raison de l'art africain sous la forme dans laquelle cet art apparaît ? Pourquoi ces formes-là ? Pourquoi sculpter de cette manière, etc. Mmh. Donc toutes ces questions qui sont des questions qui viennent à nous, qui commandent au fond l'activité philosophique. Et c'est en ce sens qu'on dit à la fois qu'il ne faut pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Bon, je n'allais pas m'enfermer dans ma tour d'ivoire et continuer à cultiver la signification de l'algèbre de la logique de Boulle. Encore que je crois que l'algèbre de la logique de Boulle donne un certain éclairage à notre civilisation moderne.
Parlez de Georges Boulle.
De l'ordinateur, voilà, de Georges Boulle.
Mathématicien.
Voilà, mathématicien. Mais par ailleurs, il ne faut pas se couper des problèmes tels qu'ils se posent. Et ce sont ces problèmes-là qui décident. Donc j'ai le sentiment, moi, d'avoir mené jusqu'ici mon travail philosophique dans une certaine continuité, même si de l'extérieur, on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre travailler sur l'algèbre de Georges Boulle, écrire sur la philosophie de Mohamed Iqbal, ou regarder le discours de Senghor sur l'art africain. Je vois bien le lien, je vois bien comment ma trajectoire a rencontré ces problèmes-là et encore une fois, comment le mot de traduction lie toutes ces problématiques.
Vous venez de le citer, voici sa voix, Léopold Sénard Senghor.
La civilisation négro-africaine est une civilisation une civilisation qui n'est pas divisée. Dans la civilisation négro-africaine, l'homme s'abandonne au rythme de la nature, tandis que la civilisation occidentale européenne poursuit un mouvement contraire. L'Européen veut humaniser la nature, transformer la nature pour l'adapter à l'homme. Or, l'homme est un être essentiellement inquiet, essentiellement instable. Voilà pourquoi il y a toujours chez l'Européen une inquiétude qui est un bien et un mal. Tandis qu'il y a moins d'inquiétude chez l'Africain parce que l'Africain s'abandonne toujours à la nature où il y a les mêmes forces et les mêmes courants.
Léopold Sédar Senghor a été le premier président de la République sénégalaise. Vous l'avez rencontré,
oui.
Souleymane Bachir Diagne. Et quand on entend ici parler de la différence entre la culture, l'homme européen et l'homme négro-africain, aujourd'hui en 2019, quand on entend ces phrases-là, ça peut être presque choquant parce qu'on se dit mais il essentialise déjà négro-africain, c'est pas une expression qu'on emploierait aujourd'hui. Et les deux semblent tellement distincts et opposés avec une espèce de frontière entre les deux qu'on se dit mais il met des réalités derrière ces termes qui, alors, paraissent-elles désuètes aujourd'hui ? Est-ce que c'est simplement ces termes que nous n'osons plus prononcer ? Ça, c'est justement la question.
Vous avez parfaitement raison de dire cela. Je suis quelqu'un qui a été pendant très longtemps très énervé par le caractère essentialiste du propos senghorien. Dire le négro-africain d'une part, l'occidental, et il dit même parfois dans d'autres circonstances, quand il revient sur ses oppositions très tranchées, il dit même parfois l'albo-européen. Alors, le négro africain, l'albo-européen, il y a de quoi vouloir tirer son revolver, évidemment. Mais, au bout d'un certain temps, j'ai appris à aller au-delà du langage essentialiste de Senghor. Et c'est d'ailleurs tout le propos de mon livre.
Essentialiste, ça veut dire parler du noir. Le noir est comme ça.
Voilà,
la femme est comme ça.
Exactement.
C'est-à-dire que la définition, enfin l'homme se réduit à la définition qu'on en donne.
Exactement. Comme s'il y avait une sorte d'essence qui ne changeait pas. Le négro africain a toujours été comme ça. Il se distingue radicalement. Il n'a pas de point commun sur ce plan-là avec l'albo-européen, comme dit Senghor. Mais alors, quand on le lit dans le détail, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage que je lui ai consacré, on se rend compte qu'au bout du compte, il y a dans ces textes même de quoi défaire ce côté essentialiste. Le langage essentialiste, il est là, il n'y a pas à le nier, il est bien présent. Mais par ailleurs, on se rend très vite compte qu'il y a aussi dans ce qu'il dit quelque chose qui va dissoudre ces essences qu'il oppose, par sa philosophie de la rencontre et du métissage. Quand le même Senghor vous dit que c'est un devoir, qu'on a un devoir de métissage. Donc le métissage, c'est pas simplement un accident de naissance où des essences différentes se rencontrent, des gens d'ethnicité différente tombent amoureux et ont un enfant qui serait métisse. Non, il en parle comme d'un devoir. Chacun doit être métisse à sa façon. Ça veut dire que ce qui nous permet de nous accomplir, c'est la capacité que nous avons de nous décentrer. Alors, vous avez cette tension énorme dans le texte de Senghor, et d'ailleurs dans l'ouvrage que je lui ai consacré, je dis qu'il est comme Pénélope. Il défait le soir ce qu'il a tissé le jour. Autrement dit, il y a dans le texte senghorien de quoi défaire le langage essentialiste massif qui risque de rebuter le lecteur même d'alors, alors a fortiori les lecteurs que nous sommes aujourd'hui, qui pouvons être très impatients devant ce genre de propos essentialistes. Maintenant, quand on regarde ce qu'il dit, si on considère que le négro-africain, ce n'est pas le noir africain qui serait identique à lui-même éternellement, mais ce qu'il en dit, c'est un certain type d'approche du réel, etc. Donc on déracialise complètement, on désessentialise le propos pour regarder le genre d'approche de la réalité dont il parle.
Déterminé par une géographie, une culture, une histoire ou...
Non, c'est une composante essentielle de notre humanité qui est une humanité commune. Et c'est en cela que Senghor est profondément bergsonien. Bergson parle parfaitement de deux pôles qui sont le pôle analytique, rationnel et le pôle intuitif. Ce que Senghor fait pour l'essentiel, c'est mettre des types humains derrière ces pôles-là, en disant le négro-africain serait du côté de l'intuitif, l'albo-européen serait du côté de l'analytique. Si on se débarrasse de ces termes essentialistes, à ce moment-là, on retrouve le propos bergsonien et on retrouve surtout la finalité, je parlais tout à l'heure du métissage, la finalité d'apprendre à l'humain à réaliser une humanité totale qui marcherait sur ses deux jambes, c'est-à-dire la jambe analytique d'un côté et la jambe intuitive de l'autre.
Oui, parce que c'est l'autre concept qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est important pour vous, qui est celui d'universel.
Absolument, absolument. Et c'est ce qui me distingue probablement de ce qu'on appelle les sujets ou les auteurs post-coloniaux, encore que je ne sache pas trop ce que c'est que j'ai l'universel chevillé au corps. Moi, j'y crois. Je crois qu'on ne peut pas se passer d'une visée de l'universel.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous quelque chose en commun.
Nous avons tous
êtres humains.
Absolument.
Les êtres humains, pas les animaux.
Oui, je m'en tiens aux êtres humains. Jusqu'ici, je n'ai pas fait entrer les animaux dans ma réflexion à proprement parler, sauf quand il s'agit évidemment de la protection du vivant en général et de notre environnement en général. Mais je crois que nous partageons effectivement ce que l'on peut appeler une condition humaine. Et je rappelle qu'en utilisant la notion de condition humaine, je reste sartrien. Évidemment, il n'y a pas d'essence ou de nature humaine, mais l'idée qu'il y ait une condition humaine est aussi une idée profondément sartrienne. C'est même ce qui fait que si je me choisis, pour revenir à Goethe qui choisit ou le bien ou le mal comme
dans la pièce de théâtre de Sartre, Le diable et le bon Dieu.
Voilà, mais le choix que je fais, dit Sartre, est un choix qui engage toute l'humanité. Parce que le choix, je l'effectue sur fond de conditions humaines communes.
Mais alors, comment tenez-vous ensemble d'un côté une réflexion sur la philosophie africaine, puisque oui. vous aviez consacré des livres, existe-t-il ou non une philosophie africaine, oui. et vous inscrivez dans l'héritage de Senghor, qui parle quand même, oui. on vient de le dire, d'hommes de négro-africains, oui. et de l'autre, l'universalisme que vous décrivez, que vous appelez de vos voeux, ou que vous oui. constatez, ou que vous souhaitez, les deux paraissent opposés.
Mais oui, non. Alors justement, là où les deux en réalité convergent, c'est d'abord, d'une part, que l'universalisme, la question de l'universel, on ne peut la poser sérieusement que si on commence par constater le pluriel du monde. Pendant très longtemps, l'universel, c'est, le monde européen s'est tranquillement identifié à l'universel en mmh. disant qu'il en était l'incarnation et qu'il apportait l'universel au reste du monde. Les décolonisations, ça a signifié l'irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. L'histoire universelle n'était plus l'histoire de la seule Europe. Elle était l'histoire de populations, de territoires différents, de géographies différentes, etc. Il fallait en tenir compte. Et c'est seulement à ce moment-là, quand le pluriel est là, que l'on peut poser sérieusement la question de l'universel, parce qu'il s'agit à ce moment-là d'un universel vers lequel nous allons aller ensemble, d'un universel que nous allons viser et construire ensemble.
Il faut y aller, donc ce n'est pas un donné.
Horizon, ce n'est pas un donné, c'est une tâche. Donc voilà la conception. Que j'ai de cet universel là comme tâche, ce qui fait que ça va être un universel de rencontre ou un universel de traduction, pour revenir à mon obsession.
Alors, pour essayer de comprendre ce concept, qui est vraiment un concept qui vous est cher, hein, je renvoie à l'ouvrage que vous avez écrit avec Jean-Louis Amsel, notamment sur cette question. Dire universel, donc vous l'avez dit, ça implique une pluralité. Ça veut dire que l'universel, c'est pas l'uniformité. Au contraire, il y a de la différence. Mais quel est ce lien, ce trait d'union, ce point commun que nous partageons et qui fait que nous pouvons tous appartenir à ce que vous appelez l'universel ? C'est pas juste abstrait.
Bien sûr, ça n'est pas abstrait. Prenons un exemple très précis qui va parler à nos auditeurs. La COP21. Nous partons du principe que nous tous, en tant qu'humanité, qui partageons la même condition humaine, sommes en train de saccager notre habitat, notre planète, et que notre habitat, notre planète est en danger. Et que nous sommes tous, dans ce cas-là, embarqués, comme dirait Pascal. Et donc, ça veut dire que nous prenons conscience à ce moment-là de deux choses. D'abord, notre condition commune. Personne n'échappera au désastre de la planète. Je pourrais dire, comme Sénégalais africains, nous n'y sommes pour rien. Ceux qui ont pollué notre planète avec autant de carbone, ce sont ceux qui ont créé des usines depuis la révolution industrielle, etc. Je ne peux pas dire ça. Tout simplement parce que c'est le même habitat. Donc ça n'a aucun sens pour moi de me défausser, si vous voulez, de ma responsabilité en disant « moi je fais ce que je veux, ce n'est pas ma faute », etc. Donc on ne peut pas avoir une conception plus précise de notre condition qui est notre situation commune. Et à ce moment-là également, ce que nous allons faire ensemble pour le futur, nous allons le faire tous ensemble. Ça veut dire donc que la situation où nous nous trouvons, le désastre écologique qui nous menace, est probablement le meilleur exemple que l'on puisse trouver de ce que cela signifie sentir notre commune humaine condition et concevoir que l'universel, les réponses que nous allons apporter, c'est une tâche et une tâche qui nous engage tous. Autre exemple. Les droits humains, moi je considère que l'universalité des droits humains a commencé après la Deuxième Guerre mondiale à l'UNESCO. Je veux bien que beaucoup de pays se définissent comme la patrie des droits de l'homme, etc. Tant que c'était leur pays, ça les concerne eux, ça concerne leur récit national. D'ailleurs, ces pays se proclament tels, ça ne les a pas empêchés hors de leur pays, et en particulier en se projetant dans le monde colonial, d'offrir un tout autre visage que celui des droits humains. Bref, c'est le récit national. En revanche, quand les pays se rencontrent dans le cadre multilatéral et se mettent à se concerter, et dans la concertation à se donner des droits et des devoirs qui les obligent, là, il y a un horizon d'universalité qui est visé. L'environnement, encore une fois, étant probablement un des meilleurs exemples que l'on puisse imaginer dans ce cadre-là. Et pour revenir à ma discussion avec Jean-Louis Amsel dans notre livre, c'est un point sur lequel, au fond, nous sommes profondément d'accord, je veux dire, avec Jean-Louis Hamsel. La simplification consisterait à penser que je suis le postcolonial relativiste, tandis que lui est le défenseur de l'universel, de l'universalisme du républicain. En définitive, non. Nous nous rencontrons sur l'exigence d'universel, même si nous donnons des contenus différents à cette exigence-là.
Et j'en profite pour dire que vous êtes l'auteur d'un Bergson postcolonial aux éditions du CNRS. Il fallait quand même citer à nouveau son nom, parce que Bergson est quand même un auteur qui a beaucoup compté pour vous. On verra si on y revient. D'abord, je saisis la perche que vous m'avez tendue en parlant d'écologie, pour interroger le rôle qu'est le vôtre en tant que philosophe face justement aux inquiétudes écologiques ou à la catastrophe imminente, hein, selon l'humeur,
oui,
que vous pointez. On va écouter la voix alors de quelqu'un qui n'est pas du tout philosophe, justement, mais qui essaye d'attirer l'attention sur ce problème. Vous la connaissez sans doute. C'est Greta Thunberg, la militante suédoise de 15 ans, qui prend beaucoup la parole à ce sujet. On va l'écouter, puis vous nous direz quelle forme de discours vous pouvez tenir, quelle forme d'engagement. Est-ce que pensez-vous qu'il relève de votre métier de philosophe face à au problème écologique?
My name is Greta Thunberg.
Greta Thunberg, 15 ans, sweat à capuche, deux tresses blondes, ne sourit pas à la tribune.
Certains disent que je devrais plutôt être à l'école. Mais pourquoi étudier pour un futur qui n'existera peut-être pas, quand personne n'essaye de sauver ce futur?
Depuis septembre, l'adolescente suédoise fait un sit-in tous les vendredis devant son parlement à Stockholm, une grève de l'école. Dans une vidéo postée hier sur les réseaux sociaux, elle invite les autres à faire pareil.
Où que vous soyez, qui que vous soyez, on a besoin de vous maintenant. S'il vous plaît, faites la grève du climat avec nous.
Là, c'est une archive de la matinale de France Inter en décembre 2018. Ce qui est intéressant ici, Souleymane Bachirdiane, c'est que Greta Thunberg oppose les études d'un côté et l'action de l'autre. Elle dit pourquoi étudier pour un futur qui n'existe pas? Alors moi je vous pose la question, si vous êtes aussi inquiet qu'elle, et je n'en doute pas que ce soit le cas, pourquoi étudier, pourquoi enseigner si de toute façon la catastrophe est imminente?
Oui, l'imminence de la catastrophe devrait plutôt nous pousser à étudier, effectivement, et à enseigner, c'est-à-dire à faire ce qui est notre métier en tant qu'humain. Transmettre le meilleur de nous-mêmes. C'est au fond cela, la signification de l'éducation, et nous ouvrir l'avenir. Il faut toujours l'humanité, un des aspects qui définit l'humanité, c'est que précisément, nous créons toujours le temps dont nous avons besoin. Mais je comprends parfaitement ce que dit Greta de ce point de vue-là. Et vous aurez remarqué, comme moi d'ailleurs, à quel point aujourd'hui, des personnes très jeunes, des adolescents, je dirais sans aucun paternalisme, des enfants, nous enseigne ce qu'est l'humanité. Greta qui dit à quoi bon l'école si ceux qui sont chargés de nous transmettre les valeurs dont l'école est porteuse n'ouvrent pas les yeux sur la catastrophe à venir. Elle nous apprend quelque chose de bien plus important que tout ce qu'on peut apprendre à l'école.
Oui, mais alors, pour vous demander de manière plus provocatrice, la philosophie va pas sauver la planète?
Alors, elle a son rôle à jouer dans ce salut de la planète, et là son rôle à jouer. Je suis d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas bien de faire une sorte d'anthologie des textes majeurs de différentes cultures parlant de notre planète et de la responsabilité qui est la nôtre de sauvegarder cette planète. Je pensais à cela en travaillant sur des textes, un texte dans l'histoire de la philosophie islamique, qui est le texte de Hayy ibn Yaqzan par Ibn Tufayl, un texte datant du XIIe siècle. Je pense également à un certain nombre de textes de la tradition orale africaine, qui sont des textes sur la signification du vivant et la responsabilité qui est celle de l'humain de protéger le vivant. Alors, quand ils définissent le vivant, ça veut dire aussi la nature entière, parce que la définition du vivant que l'on trouve dans beaucoup de religions africaines et dans beaucoup de traditions orales africaines, c'est une définition qui fait du caillou le parent de Dieu. C'est Senghor qui dit du caillou jusqu'à Dieu, c'est-à-dire que vous avez une chaîne continue d'être et de vie qui fait que il n'y a jamais de degré zéro du vivant. Le caillou est du vivant également. Alors tous ces textes qui indiquent à l'humain ce qu'il a pensé de meilleur dans sa relation à son environnement, à sa nature, il faudrait presque en faire une anthologie. Et alors, pour revenir à ce que dit Greta, faire que l'école soit également le lieu où l'on enseigne ces textes-là et la responsabilité qui s'attache à ces textes-là. Et ça, c'est une tâche à laquelle la philosophie pourrait apporter sa contribution.
C'est une forme de mission, alors?
C'est une mission. Je crois qu'il y a quelque chose de la mission, effectivement, dans l'activité philosophique. Parce que, au bout du compte, ce que nous enseigne la philosophie, c'est à remplir la tâche qui est la nôtre de devenir humain. L'humanité n'est pas un état, c'est une tâche. Et d'une certaine façon, la philosophie nous enseigne à nous engager dans la tâche de devenir ce que nous avons à être, ce qui est une citation, comme vous le reconnaissez, d'Aristote, c'est-à-dire des humains. Et avoir le sens de notre responsabilité vis-à-vis de la nature et remettre de l'ordre et remettre à l'endroit cette mauvaise direction que nous avons empruntée avec ce cher Descartes qui voulait que nous soyons les maîtres et possesseurs de la
comme
nature.
Comme maîtres et possesseurs
de la nature. C'est-à-dire qu'il voulait qu'au fond, nous transformions la nature en ressources naturelles. Donc il faut sortir de cette impasse-là où nous voyons qu'elle ne nous mène nulle part, sinon à la catastrophe, pour revenir à une autre conception. Et là aussi, la philosophie, me semble-t-il, a un rôle important à jouer, mais à sa propre manière seulement.
Est-ce que vous enseignez, je l'ai dit, hein, à l'université de Columbia notamment, est-ce que l'enseignement de la philosophie va de pair chez vous avec une nécessité, disons, d'écriture aussi ? Est-ce que l'écriture pour vous est quelque chose d'important dans votre travail philosophique ou c'est d'abord la transmission de professeur à élève ?
J'essaye de conjuguer les deux. Ces dernières années, j'ai vu de plus en plus mon enseignement être nourri par les textes que j'écris et réciproquement. Pendant très longtemps, au fond, il y a eu une certaine dissociation entre les deux. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai beaucoup transformé mon enseignement en écriture et vice-versa. Par exemple, l'ouvrage que j'ai consacré à la philosophie en islam est nourri de plus de 20 ans d'enseignement de la philosophie dans le monde de l'islam. J'ai commencé au Sénégal, poursuivi à Chicago où j'ai enseigné, avant d'enseigner aujourd'hui à Columbia. De la même manière, vous avez évoqué tout à l'heure mon livre sur Bergson. Il y a encore quelques semaines, je viens d'être en vacances, j'ai donné à Columbia un cours sur Bergson et les bergsonismes hors de France, hors d'Europe même. Et c'était effectivement très nourri par mon livre qui est en train d'être traduit en anglais et qui va paraître à la
rentrée. C'est un plaisir pour vous d'écrire ?
Ah, c'est un immense plaisir, c'est un immense plaisir. Et je vais vous dire d'ailleurs même une chose, c'est un plaisir, parce que j'écris maintenant selon les circonstances et selon la demande, ou en français ou en anglais. Quand j'ai le choix et qu'il s'agit de livres, je préfère les écrire en français. Et écrire mes livres en français, dans le retranchement en Amérique où je suis entouré par la langue anglaise, c'est un certain rapport jubilatoire que j'ai à ma langue française. Écrire en français aux États-Unis, j'ai le sentiment d'avoir un plaisir encore plus grand quand je me retranche comme ça dans mon bureau et derrière mon ordinateur pour écrire. J'ai le sentiment que mon rapport à ma langue est devenu différent.
Et d'ailleurs, pour boucler cette discussion et revenir à une chose que vous avez dit au début de l'émission, vous avez dit une fois que vous avez été diplômé en France, que vous étiez d'abord retourné au Sénégal. Vous avez posé la question, en tout cas, de savoir où est-ce qu'il valait mieux enseigner. Donc vous avez enseigné, j'imagine, en France un peu. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Pourquoi ne pas avoir enseigné au Sénégal plus longtemps ?
J'ai enseigné quand même 20 ans. J'ai enseigné 20 ans
beaucoup.
Au Sénégal, c'est beaucoup. Alors, comme je dis toujours, parce que quand je suis parti aux États-Unis, au Sénégal, ça a créé un peu de remous. Je suis devenu un peu la figure de ce qu'on a appelé la fuite des cerveaux. Et je rappelle toujours à mes interlocuteurs que j'ai enseigné au Sénégal 2 fois 10 ans. Et la raison pour laquelle je dis 2 fois 10 ans, c'est que, vous savez, on prend un engagement d'enseigner 10 ans au service de son pays si on a été boursier de son pays. Alors c'est la raison pour laquelle je dis 2 fois 10 ans. Non, je ne serais jamais parti si je n'avais pas enseigné 20 ans déjà au Sénégal. J'ai pensé qu'au bout de 20 ans au Sénégal, travaillant en essayant de créer les enseignements que j'avais voulu créer, que j'avais réussi à créer, l'enseignement de philosophie des sciences et de logique, l'enseignement de philosophie islamique, que ceux qui les enseignent aujourd'hui ont été mes étudiants. Ils ont pris ma succession. Donc j'avais le sentiment d'avoir terminer une tâche, je n'ai rien laissé d'inachevé au moment où j'ai décidé de travailler dans des conditions quand même plus faciles et qui me valent aujourd'hui d'avoir produit beaucoup plus que ce que j'aurais fait si j'étais resté à Dakar.
Merci beaucoup Souleymane Bachardiane d'être venu nous parler de votre travail aujourd'hui.
Merci de votre accueil.
On va se quitter avec un dernier son, une chanson, c'est une proposition de Thomas Beau, l'Orchestra Baobab, vous connaissez ?
Mais oui, bien sûr.
Qui est-ce ?
Alors l'Orchestra Baobab, j'ai même connu Rudy Gomis qui était un membre de l'Orchestra Baobab, qui est un ami.
C'est un groupe sénégalais.
C'est un groupe
des années 70.
Qui joue beaucoup de musique très différente et qui a adapté au rythme sénégalais la salsa.
La chanson s'appelle Kumba.
C'est toi qui m'as béni, que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi tu es parti en me disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé.
On mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie votre bibliographie, évidemment, hein, Souleymane Bachardiane, notamment l'ouvrage sur Léopold Sédar Senghor, L'Art africain comme philosophie, qui était paru d'abord en 2007, va reparaître dans quelques jours, le 20 juin prochain, donc aux éditions Rive-Neuve. Donc j'en profite pour l'annoncer. Comment philosopher en islam, le Bergson postcolonial et universalisme et pensée décoloniale, par exemple. Celui-ci est aux éditions Albin Michel. On mettra tous les ouvrages en ligne. Merci encore. À bientôt.
Merci.
Que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Et toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Tu es parti en disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé.
France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Géraldine, bonjour.
Adèle, bonjour.
Vous avez la haine aujourd'hui.
Ben comme beaucoup de monde, en ce moment, oui, on peut dire que c'est un signe du temps. Il y a de la haine dans l'air. Réseaux sociaux, rejet des médias, complot antisémite, terrorisme, déni du peuple ou colère envers les élites, l'époque est bien à la haine. Dès lors, les parutions se mettent à la page. La revue des Deux Mondes de ce mois de juin consacre tout un dossier spécial à la haine française et les éditions Payot ont fait paraître un recueil de textes du philosophe et sociologue allemand Georges Simmel sur les haines sociales. De quoi éclairer donc cette ère du temps.
Le chaos, la confusion. Au milieu des débris, les face-à-face continuent inlassablement, dans une rue puis une autre. D'un côté, des gilets jaunes déterminés qui multiplient les barricades de feu. De l'autre, des CRS qui avancent parfois à l'aveugle. Et des blessés, de part et d'autre. Un scénario qui s'est répété toute la journée. La colère s'est radicalisée en plein cœur de Paris. Un samedi de guérilla urbaine. Rythmé par les coups de semonce.
Les gilets jaunes ont fait éclater au grand jour certaines des grandes dissensions qui structurent la société française. Il y avait eu des signes avant-coureurs, les Black Blocs, Nuit debout, des émeutes en banlieue, et il y avait des éléments de langage déjà, fracture sociale, creusement des inégalités, colère populaire, mêlant autant les causes que les manifestations de la haine. C'est que la haine, justement, est aussi bien une cause qu'un effet, un ressort, un mécanisme, qu'un signe, un phénomène. Elle est ainsi autant un mobile qui pousse à agir que la forme de l'action elle-même. C'est par haine que l'on agit avec haine. C'est ce qui la rend aussi diffuse aujourd'hui. Il y a à la fois des raisons d'être haineux et une manière d'être haineux. Mais à quoi tient cette diffusion aujourd'hui? Pourquoi la haine est-elle un signe de notre temps en particulier? Y a-t-il une multiplication de ces causes, plus de raisons d'être haineux aujourd'hui, ou une intensification de ces effets qui fait que nous avons moins de filtres, que nous empruntons plus facilement sa voix?
Ça, c'est à moi que tu parles, hein? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, mec! On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi non plus!
En 1995, Mathieu Kassovitz sortait son film culte La Haine. Avec ce film et ce titre, il désignait d'un seul mot tous les conflits profonds entre la jeunesse et la police. Il les a rendus visibles, mais ils ne sortaient pas de nulle part. Ils étaient déjà là, profonds, mais ils n'étaient pas en fait montrés. Ce film a ainsi révélé que la haine avait quelque chose de permanent, de constitutif, mais qu'elle n'était pas toujours belle à montrer et à voir. Évoquer la haine, c'est donc dévoiler et scandaliser, car on désigne cette ambiguïté fondamentale. La société se soude essentiellement et paradoxalement sur des conflits, des dissensions, de l'aversion. C'est ce que dit Georges Simmel dans son texte sur la psychologie sociale de l'hostilité. Un groupe se réunit contre un ennemi qu'il hait, mais il est lui-même fissuré en son sein par la haine. Comment comprendre alors que la haine soude en fait ce qu'elle divise?
On n'a pas que de l'amour. Ça, non. On n'a pas que de l'amour à vendre. Ça, oui.
Se pencher sur les occurrences de la haine dans les textes classiques revient aussi à se pencher sur son contraire, l'amour. Dès l'Antiquité, Empédocle a ainsi fait de l'amour et la haine les deux forces réciproques, positives et négatives, qui structurent le mouvement du monde. Dans son traité sur les passions de l'âme, Descartes consacre un article conjoint à l'amour et à la haine. On porte de l'amour aux objets qui nous font du bien, on les hait quand ils nous sont nuisibles. Mais que dire des objets nuisibles qui nous font du bien? Et que faire de la haine qui nous soulage? Il y a un bienfait de la haine. Baudelaire dit ainsi que la haine est une liqueur précieuse faite avec notre sang, notre santé, notre sommeil et les deux tiers de notre amour. Condamner la haine elle-même et la mettre du côté du mal est du coup trop réducteur, car en fait, elle n'est pas l'objet du mal, mais elle permet de le désigner, de le nommer. L'époque n'est donc pas mauvaise ou plus mauvaise, elle est surtout plus radicale parce qu'elle veut montrer et dire ce qui va mal pour aller vraiment mieux.
Merci beaucoup Géraldine. Alors les livres dont vous nous avez parlé?
Alors il y a Georges Simmel, L'étranger aux éditions Payot, La revue des deux mondes, La haine française, et puis j'ajoute Tu haïras ton prochain comme toi-même d'Hélène Leuillet, paru aux éditions Albin Michel, et Olivier Lecourt, Grand Maison, haine, philosophie et politique aux éditions PUF.
Ça fait beaucoup de haine et beaucoup de choses à lire. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette semaine avec Alexandre Dang aujourd'hui à la prise de son. On se retrouve lundi pour une nouvelle série. Lundi, on philosophera avec Éric Rohmer, figurez-vous. On parlera du rayon vert, de contes d'été, des nuits de la pleine lune. Fabrice Lucchini aussi nous rejoindra pour nous parler de son expérience. Un bon programme pré-estival. dès lundi. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que les émissions précédentes sur Le Père, présentées par vous, Géraldine, cette semaine, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne et vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. N'oubliez pas, chers futurs bacheliers, les émissions spéciales Bac Philo qu'on vous a proposées le mois dernier, elles sont toutes téléchargeables en ligne, vous savez le faire, le podcast est facile, vous pouvez les écouter même la veille de l'épreuve en vous endormant. Ça infusera dans votre esprit, on vous garantit, une bonne note. C'est promis. Allez, rendez-vous lundi à 10h. D'ici là, passez un bon week-end sur France Culture.